Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Brice Gaillard, premier secrétaire fédéral du PS dans les Hauts-de-Seine, secrétaire national du Parti Socialiste en charge du budget, conseiller municipal de Châtenay-Malabry. Bonjour.
Bonjour Loïc Barrière et merci de me recevoir.
Alors Brice Gaillard, Jean-Luc Mélenchon a officialisé sa quatrième candidature à l'élection présidentielle. Actuellement, c'est la personnalité de gauche la plus haute dans les sondages pour le premier tour pour 2027. Comment réagissez-vous à cette nouvelle candidature ?
Eh bien écoutez Loïc Barrière, en premier lieu, ça n'est pas une information nouvelle. Je pense qu'aucun Français n'est en réalité surpris par cette déclaration. Jean-Luc Mélenchon est candidat à l'élection présidentielle pour la quatrième fois. Je regrette simplement que ça ne s'insère pas dans une démarche unitaire de la gauche dans le contexte que l'on connaît, qui est celui de la perspective sérieuse de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans notre pays. On est dans une situation dans laquelle une formation politique et son candidat donc préemptent un petit peu le débat à gauche avec un risque très simple, et c'est celui de fracturer la gauche et au final de faire en sorte qu'elle ne soit pas présente au second tour de l'élection présidentielle. Et je le regrette.
De quelle manière sera désigné le candidat du Parti socialiste ? Et d'ailleurs, y aura-t-il un candidat du PS ? Est-ce qu'il faudra en passer par une primaire de toute la gauche ?
Alors, il ne m'appartient pas de répondre à cette question. Vous savez, je ne fais pas dans la langue de bois. En l'occurrence, ce que je sais, c'est qu'il faudra désigner un candidat rassembleur de la gauche. Je souhaite évidemment qu'il soit socialiste. C'est ma famille politique et je pense qu'il y a plusieurs personnalités au sein du Parti socialiste, en premier lieu son premier secrétaire, qui sont bien placées pour pouvoir incarner cette forme d'union de la gauche au RLFI, du coup, comme nous venons de le dire. Ensuite, est-ce que ce sera une primaire ? Est-ce que ce sera quelque chose d'un peu plus novateur. Je ne le sais pas. Moi, ce qui m'intéresse en réalité, plus que la méthodologie, c'est que ça crée une dynamique. Parce que je suis convaincu que les Françaises et les Français sont désireux de voir une offre politique de gauche crédible, de gauche de gouvernement, qui se présente à l'élection présidentielle. Et je crois que plus on rassemblera cette gauche, donc sans la famille insoumise, comme on le disait, et plus on aura de chances réelles d'arriver au second tour de l'élection présidentielle et de l'emporter dans un second tour.
Le Parti socialiste n'a pas encore de candidat, mais vous avez déjà publié une première version de votre projet pour 2027. Vous qui êtes spécialiste des questions économiques, de quelle manière souhaitez-vous rendre du pouvoir d'achat aux Français ? Est-ce qu'il faut augmenter le SMIC, revaloriser certaines aides sociales, renationaliser aussi certains services publics qui ont été laissés au marché ?
Alors, en réalité, vous l'avez vu, le programme, il est extrêmement dense. Donc, moi, je ne vais pas vous donner une seule piste. Je vais vous dire que tout ce programme, en fait, il s'articule autour de la notion de liberté au pluriel. Parce qu'en réalité, notre société est tellement fracturée que nous devons aujourd'hui créer du commun, créer du lien, proposer aux Françaises, aux Français un certain nombre de solutions qui ne sont pas idéologiques, mais qui sont concrètes. Je pense en matière de pouvoir d'achat à l'augmentation du SMIC, mais aussi de manière plus générale des salaires. Je pense aussi à, parce que ça contribue au pouvoir d'achat, même si ça n'est pas purement monétaire, à l'amélioration, vous l'avez dit, des services publics, que ce soit par nationalisation dans un certain nombre de cas de figure, mais aussi tout simplement en cessant les politiques de rabot budgétaire qui sont mis en place année après année depuis désormais quasiment 10 ans. Vous savez, quand un service public souffre, ce sont aussi des Françaises et des Français, souvent les plus modestes, qui trinquent et qui ne sont plus en capacité de faire face au quotidien dignement. Et il ne s'agit pas que des aides sociales quand je dis ça, il s'agit de la capacité à éduquer ses enfants, de la capacité à se vêtir, de la capacité à se déplacer, de la capacité également à se soigner. On le sait, les refus de soins en France, ça devient aujourd'hui quelque chose de systémique et de dramatique avec des conséquences souvent graves et parfois mortelles. Donc en réalité, tout ce projet, vous l'avez dit qu'il en est que dans sa première phase, puisque les militantes et les militants vont être amenés dans les semaines qui viennent à l'enrichir. On y travaille d'ailleurs avec la Fédération des Hauts-de-Seine, mais c'est un programme axé vers ce dont les Françaises et les Français ont besoin. Du pouvoir d'achat, de la perspective politique, je dirais une forme de sérénité de la vie qu'ils ont désormais perdue depuis désormais 10 ans.
Il y a toujours des mesures phares dans une campagne présidentielle. Est-ce que le Parti socialiste est favorable à la semaine de 4 jours ?
Vous le savez, idéologiquement, nous considérons que le travail, c'est une partie importante de la vie d'un homme, mais ça n'est pas nécessairement la seule partie de cette vie. Et oui, idéologiquement, le Parti socialiste est favorable à la semaine des 4 jours. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi regarder les choses concrètement, c'est comment ça se met en œuvre pour ne pas créer un choc économique, comment ça se met en œuvre pour ne pas avoir un impact, par exemple, sur le chômage ou sur la capacité de production du pays. Alors oui, on y est favorable, mais ça ne veut pas pour autant dire que le Parti socialiste est un parti complètement déraisonnable quand il propose cela. Ça veut simplement dire qu'il faut accompagner ce changement et qu'il faut amener sans doute les choses graduellement ou en tout cas de manière ordonnée pour éviter toute problématique d'application.
Olivier Faure veut taxer les super profits. C'est une question de justice fiscale pour le Parti socialiste. Mais est-ce que cela sera suffisant pour les finances publiques de la France alors que la dette est abyssale ?
Alors non, ça ne sera pas suffisant, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire, Loïc Barrière. En réalité, je pense qu'il y a deux sujets dans votre question. Le premier sujet, c'est effectivement les finances publiques et notre capacité à lever l'impôt, qui a été amoindrie très largement depuis 10 ans. Hein. On le sait, les cadeaux fiscaux d'Emmanuel Macron, notamment aux plus riches, ils ont coûté très très cher aux finances publiques, puisque globalement, maintenant, on peut le dire, on dépasse l'équivalent d'une année de budget en cadeaux fiscaux sous les deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Donc sur 10 ans, on a perdu un an. Voilà, très schématiquement. Donc oui, il va falloir recréer un dispositif fiscal qui nous permette de subvenir à nos besoins publics, de financer les politiques publiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on fait dans une économie mondialisée de plus en plus instable avec régulièrement la question des super-profits. Ça a été le cas. On s'est posé la même question au moment du début de la guerre en Ukraine, mais on s'est aussi posé la question, rappelez-vous, avec le secteur assurantiel lors du Covid, puisqu'on le voyait, il y avait en réalité des gains monumentaux pour les assurances, notamment sur la partie véhicule, puisque vu qu'il y avait moins de circulation sur la route, il y avait forcément moins d'accidents à indemniser pour les assurances qui ont réalisé ainsi des gains signifiants. Donc nous, au Parti Socialiste, on a mis en place un dispositif qui permet de détecter assez finement ce qu'on peut qualifier de super profit et de les taxer justement. Il ne s'agit pas de tout prendre, il s'agit de dire que mécaniquement, quand il y a des profits exceptionnels, temporaires d'une entreprise, eh bien, on applique une fiscalité un peu spécifique qui n'est pas conservatoire et qui n'est pas privative pour les entreprises, mais qui permet d'abonder un petit peu le budget de l'État pour justement faire face à la crise, puisque s'il y a super profit exceptionnel, c'est bien qu'il y a crise quelque part et il faut donc mettre en place des actions pour corriger cette crise.
Brice Gaillard, est-ce qu'il faut conditionner les aides publiques aux entreprises ?
Alors, je le crois à titre personnel, je vais même plus loin, moi je porte l'idée d'une conditionnalité globale des aides aux entreprises, à savoir que souvent, et c'est pas illégitime, on appréhende cette question par le petit bout de la lorgnette. Vous avez les assos environnementales qui vont vous dire qu'il faut des conditions environnementales. Vous avez les associations féministes qui vont vous dire qu'il faut des conditions en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, etc. etc. Moi je pense qu'il faut tout cela. L'aide publique, c'est-à-dire l'argent public, c'est pas gratuit. C'est pas quelque chose qu'on peut distribuer à tout va à des entreprises qui feront derrière ce qu'elles entendent. Et le législateur, la puissance publique, elle a en droit de dire que quand on bénéficie d'aide publique, on doit avoir un comportement irréprochable, c'est-à-dire évidemment respecter la loi. Ça, c'est quand même la base, hein, il faut le rappeler. Mais peut-être aller un petit peu plus loin en matière d'incitation, en matière d'égalité entre femmes et les hommes, en matière de responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, en matière de transition environnementale. Donc voilà, moi je pense qu'il nous faut aujourd'hui, pour tout l'argent public, une conditionnalité globale des aides publiques. En réalité, on le demande déjà, vous savez, aux associations, notamment avec les collectivités locales, quand on bénéficie d'une subvention, on doit remplir un certain nombre de cahiers des charges. Pourquoi ça ne serait pas la même chose pour les entreprises au niveau national? Il n'y a rien qui l'empêche, ni moralement, ni déontologiquement, ni juridiquement.
Brice Gaillard, cette année, on commémore le 90e anniversaire du Front Populaire. Le 3 mai 1936, un front rassemblant communistes, socialistes et radicaux remportaient les législatives. Rappelons que c'est à cette époque que les Français ont eu droit à des congés payés. Aux dernières législatives, le PS a participé à ce qui a été appelé le nouveau Front Populaire. Est-ce que cette époque et la figure de Léon Blum sont une source d'inspiration pour vous? C'est encore un idéal à atteindre?
Les deux, en réalité, ça reste toujours un idéal à atteindre, parce qu'en réalité, Moi, la vision que j'ai du Parti Socialiste, c'est que le Parti Socialiste aura toujours malheureusement sa place dans la société, parce qu'il y aura toujours des inégalités à combattre et des situations à améliorer. Tant qu'il y aura des inégalités à combattre, on aura besoin d'un Parti Socialiste. Donc oui, la figure de Léon Blum, ça reste toujours un idéal à atteindre, parce que c'est celui qui, avec d'autres, mais qui nous a dit qu'il fallait agir concrètement et que c'était possible d'agir concrètement pour améliorer le quotidien des Françaises et des Français. Donc ça, c'est évidemment le premier point. C'est un idéal à atteindre, mais c'est également une figure. Pourquoi une figure ? Parce qu'il est celui qui, alors que tout prédisposé au contraire, en réalité, on est dans les années 30, dans un contexte historique dramatique, dans un contexte historique dont on sait ce qu'il a donné. Il y a eu un homme, en tout cas poignée d'hommes, dont Léon Blum, qui se sont dressés pour dire qu'un autre modèle est possible et qu'il était possible de faire de la politique différemment. Alors oui, bien sûr que la figure de Léon Blum, comme d'autres figures socialistes, évidemment, hein, je pense à Lionel Jospin, c'est une figure plus récente qui nous a quittés il y a peu, mais voilà, le panthéon socialiste, pour le dire ainsi, il est source d'inspiration et il nous fait nous rappeler qu'il nous faut toujours nous battre parce que c'est possible de se battre pour un monde moins injuste et pour davantage de cohésion dans notre société.
Brice Gaillard, la semaine dernière, le président Macron lançait une polémique en critiquant, je cite, les maboules qui veulent qu'on se fâche avec l'Algérie. Est-ce que vous êtes partisan d'un dialogue constructif avec Alger ou bien est-ce qu'il faut de la fermeté avec ce pays, notamment sur la question des OQTF ?
En réalité, l'un n'empêche pas l'autre. Et déjà, la première faute du président de la République, c'est de parler en ces termes. Quand on est président de la République, on n'emploie pas le terme maboule, qui, a fortiori, est connoté. Et quand on voit toutes les problématiques que l'on peut avoir en France sur les questions de santé mentale, moi, je crois que c'est une faute politique de s'exprimer ainsi quand on est président de la République. Ensuite, sur le fond, par rapport à l'Algérie, on peut tout à fait avoir une position de fermeté et de dialogue en même temps et de dire poliment, courtoisement, mais fermement que les choses sont ainsi ou ne sont pas ainsi. Donc voilà, moi je suis en désaccord avec cette forme de politique spectacle, vous savez, qui vise à créer artificiellement des clashs, si vous me permettez l'expression, pour marquer l'opinion publique. Donc non, il n'y a pas à parler de maboule ou autre, il y a à faire jouer la diplomatie française pour assurer une représentation viable des intérêts français en Algérie.
Merci Brice Gaillard. Je rappelle que vous êtes premier secrétaire fédéral du PS dans les Hauts-de-Seine, secrétaire national du Parti Socialiste en charge du budget et conseiller municipal de Châtenay-Malabry.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.